mémorable, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale avec Jacques Mauclair, Peter Brook, Bruno Bayen, Jean-Claude Carrière. Les metteurs en scène, les interprètes, les comédiens sont tous subjugués par la langue de Tchekhov, très musicale, parce qu'elle prend en compte les moments de la vie et du sommeil, les échos du jour et de la nuit, les cris, les étouffements, les silences, les attentes, les riens.
Eh bien, la compagnie Jacques Mauclair répète et donnera au théâtre d'aujourd'hui, sur la scène de l'Alliance française, une pièce de Tchekhov, Ivanov. Oui. Eh bien, qu'est Ivanov, Jacques Mauclair?
Bien, Ivanov, c'est d'abord la première pièce de Tchekhov. Et ensuite, c'est également la seule pièce de Tchekhov qui n'ait jamais été jouée sur une scène française en langue française.
Elle est adaptée, je crois, par vous.
Elle est adaptée par Nina Gorfinkel et moi.
Et vous-même?
Oui.
Et vous interprétez le principal rôle, je crois, également.
Le principal rôle, vous savez, dans cette pièce, il n'y a pas de rôle principal. Tous les rôles sont aussi importants les uns que les autres.
Vous êtes Ivanov, en tout cas.
Oui.
Et qui est Ivanov?
Bien, Ivanov est un monsieur de 35 ans qui est le propriétaire d'une grosse entreprise rurale et qui, lorsqu'il avait 25 ans, était plein de foi dans l'humanité, qui a lutté pour essayer d'améliorer le sort de l'homme dans son pays, d'ouvrir des écoles pour les enfants des moujiks, de réorganiser le système des cultures, et qui s'est heurté à la bêtise, à la médiocrité, à la mauvaise volonté, à la malveillance de son entourage, de ses contemporains, de ses compatriotes. Et au bout de 10 ans de lutte, il est complètement brisé, déçu, et il s'aperçoit qu'il est lui-même en train de rejoindre la médiocrité qui l'entoure, et il prend conscience de cela, et il trouve une issue, peut-être assez dramatique, mais finalement assez optimiste.
Vous trouvez?
Oui.
Et nous allons maintenant entendre...
Vous allez entendre maintenant une scène entre la femme d'Ivanov, interprétée par le Lebellon, et le jeune docteur qui la soigne, qui sera interprété par Roger Crouzet.
Savez-vous, docteur, je commence à croire que le destin m'a roulé. Il y a un tas de gens qui peut-être ne valent pas mieux que moi et qui pourtant connaissent le bonheur sans avoir rien déboursé. Et moi, j'ai payé pour tout, absolument pour tout, et cher. Pourquoi me réclamer maintenant de si gros intérêts, mon ami? Pourquoi toutes ces précautions avec moi? Ce silence autour de mon état. Pensez-vous que j'ignore ma maladie? Je la connais parfaitement. D'ailleurs, c'est un sujet ennuyeux. Je vous demande pardon. Vous connaissez des histoires amusantes?
Non.
Nicolas en connaît, lui. Puis, je commence à m'étonner de toute cette injustice. Pourquoi l'amour ne répond-il pas à l'amour? Pourquoi paie-t-on la vérité par le mensonge, dites? Combien de temps encore mon père et ma mère me haïront-ils? Ils habitent à 50 verstes d'ici et moi je sens leur haine nuit et jour, même en dormant. Et comment voulez-vous que j'interprète l'angoisse de Nicolas? Il dit qu'il cesse de m'aimer quand vient le soir. Je le comprends. Je l'admets, mais supposez qu'il cesse de m'aimer tout à fait. Je sais bien, c'est impossible, mais... Non, il ne faut plus y penser. Canari, d'où viens-tu là? Quelles affreuses pensées. Vous n'êtes pas marié, docteur. Il y a bien des choses que vous ne pouvez comprendre.
Vous vous étonnez. Sachez que moi aussi bien des choses m'étonnent. Par exemple, expliquez-moi, faites-moi comprendre comment vous, une femme intelligente, honnête, presque une sainte, vous avez pu vous tromper aussi grossièrement et vous laisser cloîtrer dans ce nid à chouette. Que faites-vous ici? Qu'avez-vous de commun avec cet homme insensible, froid? Mais laissons votre mari. Qu'avez-vous de commun avec ce milieu insignifiant, vulgaire? Mon Dieu, mon Dieu. Ce comte, toqué, rouillé, qui ne cesse de grogner. Cet aigrefin de Michard, roi des escrocs, avec sa trogne de voyou. Vous, ici, comment est-ce possible?
Lui aussi disait cela autrefois, mot pour mot. Mais ses yeux sont plus grands que les vôtres. Et lorsqu'il parlait avec flamme, il brûlait comme des charbons ardents. Parlez, parlez.
À quoi bon? Allons, rentrez.
Vous dites du mal de Nikolaï. Il est ceci, il est cela. Vous croyez le connaître? Comment peut-on connaître quelqu'un en 6 mois? Non, docteur. C'est un homme remarquable. Et je regrette que vous ne l'ayez pas connu il y a 2 ou 3 ans. Et à présent, il est mélancolique, taciturne, il n'a de goût pour rien. Mais avant, oh Dieu, qu'il était magnifique! Je me suis mise à l'aimer dès le premier regard. Je l'ai regardé et peint la souricière. Il m'a dit viens, et je me suis détachée du monde où je vivais, comme la feuille morte se détache de la branche, pour le suivre. Et maintenant, ce n'est plus la même chose. Maintenant, il s'en va chez les Lebedev pour se distraire avec d'autres femmes. Et moi, je suis clouée dans ce jardin et j'écoute le cri de la chouette.
Alors, la scène suivante, entre Sacha, qui est une jeune fille qui veut sauver Ivanov en lui redonnant du goût pour la vie, par l'amour, et Ivanov lui-même.
Sachenka, toi?
Oui, moi. Pourquoi n'es-tu pas venue depuis si longtemps? Tu ne m'attendais pas?
C'est moi qui me trompe.
Sachenka, toi?
Oui, moi. Tu ne m'attendais pas? Pourquoi n'es-tu pas venue depuis si longtemps?
Sachenka, pour l'amour de Dieu, c'est imprudent. Si ma femme te voyait, elle se mettrait dans un état.
Mais elle ne me verra pas. Je suis passée par derrière. Oh, je pars tout de suite. Moi, j'étais inquiète. Pourquoi tu restes si longtemps sans venir nous voir?
Déjà, ma femme est ulcérée, elle est presque mourante, et toi, tu viens ici. Sacha, Sacha, quelle inconsciente cruauté.
Mais que pouvais-je faire? Depuis 2 semaines, tu n'es pas venue. Tu n'as pas répondu à mes lettres. Moi, je devenais folle. Je m'imaginais que tu étais malade, que tu souffrais, que tu étais mort. Je pars tout de suite. Dis-moi au moins, tu vas bien?
Non, je me torture à mort et les autres me torturent sans fin. Je suis à bout de force. Et toi, par-dessus le marché? Ah, Sacha, que c'est cruel! Que c'est injuste, je suis coupable, abominablement coupable.
Que tu aimes les grands mots. Tu es coupable, bon, mais coupable de quoi? Réponds.
Mais je ne sais pas, je ne sais pas.
Ce n'est pas une réponse. Tout pécheur doit connaître son péché. Tu as fait de la fausse monnaie?
C'est pas très drôle.
Tu es coupable parce que tu n'aimes plus ta femme, soit. Mais on n'est pas maître de ses sentiments. Tu ne voulais pas cesser de l'aimer. Tu es coupable parce qu'elle nous a surpris lorsque je t'ai déclaré mon amour. Mais tu ne voulais pas qu'elle nous surprise.
Oui, etc., etc. J'ai aimé, j'ai cessé d'aimer, je ne suis pas maître de mes sentiments. Tout ça, ce sont des mots, des phrases vides qui ne mènent à rien.
Oh, c'est fatigant de parler avec toi. Oh, comme ce chien est bien dessiné, c'est d'après nature?
Oui. Et toute notre histoire d'amour est un roman usé jusqu'à la corde. Il avait perdu courage, le sol se dérobait sous lui, mais elle apparut courageuse, forte, et lui tendit la main du salut. C'est beau comme un roman, mais la vie...
La vie, c'est pareil.
Mais quelle idée te fais-tu de la vie, Sachenka? Mes lamentations t'inspirent de la crainte. Tu les écoutes avec recueillement. Mais il faudrait se tenir les côtes devant mes 6 magrets. Mais ce qu'il te faut à toi, c'est me sauver, hein? Accomplir un acte d'héroïsme. Ah, je suis furieux contre moi aujourd'hui. Je sens que cette crise va mal finir. Ou bien je casserai quelque chose, ou bien...
Mais c'est ça, mais c'est exactement ce qu'il faut. Casse quelque chose ou mets-toi à crier, tu m'en veux. J'ai fait une bêtise en venant ici. Eh bien, indigne-toi, tape du pied. Allez, vas-y, mets-toi en colère. Eh bien...
C'est drôle.
À la bonne heure. Nous semblons sourire. Ayez la bonté, faites-moi la grâce de sourire encore une fois.
Nous retrouvons Peter Brook et Jean-Claude Carrière au Théâtre des Bouffes du Nord. Ils sont en plein travail, car cela va bientôt être les premières représentations de La Cerisette de Tchekhov, dans une nouvelle adaptation de Jean-Claude Carrière, bien sûr, et une mise en scène de Peter Brook. Alors on sait, Jean-Claude Carrière, Peter Brook, que vous faites équipe sur un plan de travail, de choix de texte, même d'écriture de texte quelquefois, Jean-Claude Carrière, pour ce qui était du dernier spectacle monté par le Centre international de création théâtrale qui était la Conférence des oiseaux, et Peter Brook pour la mise en scène. Alors je voudrais savoir qui est à l'origine de ce projet de travail sur Tchekhov. Peter Brook ?
Tchekhov. Vous savez, la base de notre travail, c'est peut-être la base de tout travail d'équipe, et qu'on partage tant de choses qu'après coup, il est vraiment impossible de répondre à ce genre de questions. Tout est partagé, et c'est même pour nous pas très intéressant de dire « Ah, cette idée était la tienne ». Tout ce que je sais que, moi je dirais les meilleures idées viennent de Jean-Claude, et peut-être lui à son tour, il dirait quelque chose qui va ordre. Mais c'est un peu comme le travail avec les acteurs. Tout le monde demande, quand je travaille avec un acteur, surtout avec les acteurs connus, ce qu'on appelle les stars, est-ce que le grand acteur, l'acteur connu, accepte qu'on lui propose des choses? Est-ce qu'il y a peut-être des discussions, des arguments? Comment ça se passe? En vérité, une collaboration n'est jamais quelque chose de cet ordre. Il n'y a jamais un moment où j'ai une idée et l'autre refuse cette idée, ou l'ayant acceptée, pour le reste de mes jours, je me dis « mais cette idée était la mienne ». Non, c'est un processus, comme dans la cuisine, où on a des ingrédients. En chauffant ces ingrédients, les ingrédients commencent à se fondre et peu à peu une forme apparaît qui est le produit d'un travail commun. Et c'est ça qui compte. Et après cela, on ne peut plus jamais revenir en arrière.
Vous avez la chance de disposer d'un lieu qui est les Bouffes du Nord, où vous avez souvent fait des spectacles qui étaient parfaitement en accord avec le lieu. Et là, pour la Cerisette de Tchekhov, qui raconte d'une certaine manière, en somme, la ruine d'une propriété, on peut penser qu'il y a aussi une espèce d'accord secret entre le thème de Tchekhov et le lieu des Bouffes du Nord, non ?
C'est tout à fait vrai. Quand je suis venu la première fois dans les Bouffes, là, il est absolument clair que parmi les premières images qui me venaient à l'esprit était la Cerisée. Je me disais, oui, c'est un lieu merveilleux un jour pour la Cerisée.
Et vous l'avez monté alors maintenant parce que vous avez les acteurs pour le jouer, parce que vous travaillez en équipe et souvent on retrouve les mêmes acteurs, enfin le même noyau d'acteurs un peu de tous les pays qui ont fait vos précédents spectacles. Et là alors il me semble qu'il y a très peu d'acteurs du CICT et vous travaillez avec une équipe de comédiens très élargie venant un peu de tous les horizons. Et je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais il y a ce qu'on peut appeler des vedettes, par exemple Michel Piccoli qui travaille avec vous pour la première fois au théâtre. Alors, ça s'est fait comment, ce travail ?
Je n'ai jamais fait de discrimination. Et j'ai travaillé, je crois, autant avec des acteurs super connus qu'avec de jeunes acteurs, des acteurs inconnus. Et je ne vois pas la différence. Il y a des acteurs ouverts et des acteurs fermés. Alors, un acteur fermé, connu ou inconnu, ce n'est pas la peine d'essayer de travailler avec. Lui, ça ne m'intéresse pas du tout et je fais tout pour éviter ce genre d'expérience. Par contre, l'acteur disponible, dès qu'il rentre dans le travail, est un artiste devant un problème de création. Alors là, il n'y a aucune différence. Michel Piccoli, par exemple, fait partie d'une équipe, d'un ensemble, exactement comme les autres, en apportant, lui, des dons très, très forts, des qualités très fortes, et aussi les autres, chacun apporte ce qu'il a et se trouve chacun devant des problèmes qui sont toujours des problèmes différents des problèmes qu'il a vécu dans le passé. Alors, par exemple, pour cette pièce, c'est une nouvelle équipe parce que notre équipe internationale travaille dans une certaine direction, et la suite de cette direction sera notre grand, grand projet dans un an, qui est un projet indien, le Mahabharata. Et pour cela, il y a une pause. Toute l'équipe internationale, maintenant, profite d'une longue période pour faire des expériences ailleurs avant de revenir pour attaquer le projet indien. Cette fois-ci, je voulais créer une nouvelle équipe française pour aborder quelque chose qui a besoin de certaines qualité, même certaines spécialités qui n'étaient pas du tout ce qu'on développait avec l'équipe internationale. Et surtout, bien entendu, une relation avec la langue qui ici est au premier plan dans le travail du groupe international à une autre place. C'est pour ça qu'on a formé une nouvelle équipe des acteurs, des formations très différentes, mais des acteurs qui ont tous quelque chose en commun. Je crois qu'ils partagent tous la même sincérité, le même désir artisanal de se mettre ensemble pour essayer de faire un bon travail.
Qu'est-ce qui vous attache à l'univers de Tchekhov ? Et on peut aussi poser la question à Jean-Claude Carrière, parce que je crois que cette nouvelle adaptation de la Cerisay va gommer un petit peu les effets de l'âme slave, enfin une certaine mélancolie que certains metteurs en scène et certains adaptateurs veulent donner au théâtre de Tchekhov, alors que lui-même disait souvent qu'il avait écrit des comédies et qu'il fallait jouer ses pièces presque d'une manière comique. Peter Brook, Jean-Claude Carrière, qui veut répondre ? Jean-Claude Carrière ?
Oui, ce n'est pas du tout une question de gommage, et surtout pas de gommage volontaire. D'abord, en ce qui concerne les problèmes d'adaptation d'une œuvre étrangère, on peut presque dire, comme pour la mise en scène, que toute adaptation devrait être refaite tous les 5 ou 10 ans. Car il y a des choses qui passent dans le langage, dans la vie de tous les jours, et qui ont comme un reflet dans le théâtre, et qui sont inconscientes pour nous tous. Et dans une adaptation de la Cerisay faite il y a 20 ans, il y a des choses qui correspondaient au monde il y a 20 ans, et qui ne correspondent plus au nôtre. Alors sans que nous le sachions, ça c'est à un niveau réellement inconscient, il est bon, de la même façon qu'on explore une pièce, d'explorer d'abord le texte de cette pièce. Dans le cas précis de la Cerisay, je dois dire que je ne connais pas le russe, Peter le connaît, et nous avons été très aidés par une dame qui s'appelle Luzia Lavrova, qui nous a fait tout simplement, sans aucune idée préconçue, c'est le principe fondamental, un mot à mot très précis de la Cerisay. Il n'y a aucun parti pris, a priori, dans l'adaptation. Simplement, le désir d'être aussi fidèle que possible, non seulement à la lettre, mais à l'esprit du texte russe. Et ce que vous disiez de la Cerisay comédie, ce n'est pas du tout une décision prise par nous, c'est le résultat de l'exploration. C'est vrai que la Cerisay est, au sens où Tchekhov l'entendait, une comédie. Mais ce n'est pas une décision prise à l'avance, avant même de travailler avec la matière même de la pièce dans l'adaptation, tous ensemble.
Oui, et vous parlez du vieillissement des traductions, donc on peut penser que vous avez essayé peut-être de mettre une certaine modernité et de faire ressentir les problèmes que Tchekhov voulait exprimer, parce qu'on peut tirer la pièce d'un côté ou de l'autre, peut-être vers nos préoccupations d'hommes du XXe siècle.
Non, ça c'est justement, alors je le répète, nous l'avons essayé de la tirer ni d'un côté ni de l'autre, mais très naturellement, elle y vient simplement à cause du langage utilisé. C'est exactement la même chose avec Shakespeare. Shakespeare aujourd'hui a quelque chose d'archaïque pour des oreilles anglaises. Quand on l'adapte dans une langue étrangère, automatiquement on l'adapte dans une langue qui est la langue d'aujourd'hui. C'est donc purement au niveau formel que se situe cette adaptation possible ou cet écho quotidien et contemporain qu'elle a aujourd'hui.
Alors, si vous suivez un peu le travail que nous cherchons à faire depuis un certain temps dans ce théâtre, vous allez voir que nous essayons à tout prix de ne pas mettre l'accent sur quoi que ce soit. Au contraire, dans un monde où l'accent est mis à chaque instant sur une chose ou une autre, on essaie dans le théâtre de faire exactement le contraire, de donner des impressions fortes d'une réalité plus dense qui donne au spectateur la possibilité de tirer des conclusions d'une manière adulte sans être obligé d'assimiler des conclusions toutes faites, préparées à l'avance, que quelqu'un lui donne en mettant l'accent sur ceci ou cela. Il y a très peu d'auteurs qui cherchent autant la réalité sans la colorer, sans l'utiliser pour exprimer leurs propres idées que Tchekhov. C'était une des qualités extraordinaires dans Tchekhov, c'est la distillation par un travail artistique très très précis de la vérité quotidienne en retenant toutes ces contradictions et toutes ces dimensions cachées. Donc, si on part d'un parti pris et on avance en expédition vers le cœur de cette matière, on trouve obligatoirement quelque chose plus contradictoire, plus riche et plus dense que le parti pris, que l'aspect qui vous auraient intéressé au départ. Et c'est ce côté tellement théâtral et tellement vivant que nous voulons servir à tout prix en présentant Tchekhov. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on dise « Ah, il présente Tchekhov en termes comiques, ni en termes politiques, ni en termes sociaux, ni en termes larmoyants, ni en termes poétiques, ni en termes tragiques. » Parce que tous ces éléments sont présents simultanément à chaque instant de la pièce. Et c'est le spectateur de se mettre devant ces éléments, comme devant la vie. Sauf pourquoi aller au théâtre? Parce que dans le théâtre, et surtout dans le théâtre, aidé par cette distillation de la vie faite par Tchekhov, on a la vie, on participe à la vie d'une manière plus intense, ça veut dire d'une manière plus dramatique et d'une manière plus comique que dans la vie de tous les jours.
Mais alors là, Tchekhov, il me semble quand même qu'il faut peut-être replacer dans un certain contexte historique de fin de siècle, de charnière entre deux siècles, le 19e et le 20e siècle. Donc je suppose qu'au niveau des costumes, vous essayez quand même de retraduire une atmosphère russe de la fin du 19e siècle.
Oui, vous voyez, l'illustration n'est pas très importante et il est très facile, quand il s'agit d'une pièce d'une certaine époque, de noyer la pièce, de l'étouffer, l'enterrer en dessous d'un tas de détails pas nécessaires. Alors là, le principe de base est très simple. Nous cherchons ne rien illustrer, mais de suggérer, d'évoquer, c'est-à-dire de travailler avec le minimum pour essayer d'en extraire l'essentiel.
Ben, je crois que la mouette permet bon, de tenir une espèce de propos allégorique sur l'histoire du théâtre.
On peut rappeler peut-être l'anecdote, puis vous allez nous dire comment vous allez la solliciter.
Voilà, ben, l'anecdote, c'est un jeune écrivain un peu à la campagne, enfin, qui n'arrive pas à publier, qui décide de faire une petite représentation dans la maison de sa mère, d'une pièce à lui. Et sa mère est une actrice, et c'est sa petite amie qui est une fille qui va faire du théâtre, qui joue le rôle, et puis la pièce échoue lamentablement. La mère vit avec un écrivain en vogue, la petite amie de l'écrivain raté a une histoire d'amour avec l'écrivain connu. Il y a un enfant, l'enfant meurt, le grand écrivain plaque la petite, revient à l'ancienne, et puis le jeune écrivain est devenu un écrivain un peu connu. Et puis, un soir, il fait venir tous les gens de sa famille, soi-disant pour la mort de son oncle. En fait, ce soir-là, il se tue. C'est un... Bon, il y a un côté, tel que je vous l'ai raconté, il y a un côté tout à fait roman de gare dans la mouette. Et je trouve qu'il ne faut absolument pas le laisser de côté. C'est l'histoire d'une petite provinciale qui veut faire du théâtre. Comme ça, c'est très, très feuilleton. Et
Alors, ça, vous l'avez gardé dans le spectacle ?
J'ai essayé de le garder, disons que dans le spectacle, nous avons un peu divisé autrement, si vous voulez, la pièce.
Oui, alors là, je crois qu'il faut préciser que c'est une nouvelle adaptation, ou version, ou traduction, je ne sais pas, vous allez nous le dire, qui est de signé Bruno Bayen et Louis-Charles Sirjac. Mais alors, vous avez sollicité le texte comme cela vous arrangeait, ou vous êtes fidèle à Tchekhov ?
Nous avons été très fidèles au niveau de la traduction. Nous avons fait, on ne parle pas russe, ni Louis-Charles Sirjac. Nous avons refait une traduction avec des gens qui parlent russe, très précise. Et puis ensuite, nous avons fait une adaptation. Mais l'adaptation n'a pas consisté à retourner complètement la pièce dans tous les sens. Simplement à souligner un certain nombre de points qui sont en germe dans la pièce, comme ça, à les développer un peu. Et à procéder à quelques glissements dans le récit par rapport à des thèmes que nous voulions développer. Et je vous disais récit parce que il y a un peu trois parties à notre sens dans la pièce. Il y a une espèce de prologue qui va jusqu'à cette petite représentation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à la fois un débat sur les formes et un débat bon, sur le mythe, effectivement, Hamlet, Oedipe, enfin, le rapport de la mère, le beau-père, auteur célèbre, etc. Et puis, il y a, deuxième partie, toute l'histoire d'amour qui raconte, en fait, qui est vue du point de vue de l'autre auteur, c'est-à-dire de Trigorine, l'auteur de nouvelles, et qui est toute l'histoire d'amour entre Nina, la mouette, et Trigorine. Et qui ressortit plus au côté littérature de gare dont je vous parlais. Et la troisième partie, qui est l'épilogue, qui recouvre en fait le quatrième acte de la pièce, qui est la fameuse soirée où il se suicide, qui est pour nous un peu comme la représentation enfin réussie, si vous voulez, qui avait échoué au début, et qui se termine par le suicide. Suicide qui a lieu en coulisses, puisque bon, quelque part, la mort, c'est l'irreprésentable. Enfin.
Bien, ben alors, la fabrique de théâtre que vous animez donc présente ce spectacle. Et lorsqu'on a vu certains spectacles, par exemple à Gennevilliers, le Betoking, en vous entendre me raconter Tchekhov, je revois petit à petit ce spectacle. Il me semble qu'on devrait découvrir dans votre version de la Mouette à la fois une tendresse, mais ce qui a été toujours la marque de votre travail, une certaine ironie lucide et quelque peu méchante.
Mais je crois qu'il y a beaucoup d'ironie chez Tchekhov dans cette pièce, parce que c'est un peu comme, au sens médiéval, si vous voulez, ce que c'était qu'un chef-d'œuvre, c'est-à-dire un moment où l'artisan devient maître et où il rend un peu César, ce qui est César. À savoir, Tchekhov n'a pas écrit pendant un certain nombre d'années de pièces, puis il écrit La Mouette, et il cite des tas de livres dedans. Il cite, bon, Shakespeare, je vous en ai parlé, Maupassant, Pushkin, et comme ça, il fait des allusions à toute sa formation à lui. En plus, il fait des tas d'allusions à des relations privées. Enfin, bon, il y a l'histoire fameuse connue du petit médaillon dans la pièce, qui était en fait une histoire entre une jeune fille et lui. Bon, et la pièce, je crois, est très ironique. Il est complètement conscient de cette ironie. Bon, il dit c'est une comédie, il dit c'est une histoire de gens simples, ordinaires. C'est surtout pas des fous. Il faut que ce genre de choses arrive à un peu tout le monde. Bon, alors, ceci effectivement dans une situation, dans une certaine situation sociale. À la différence des autres pièces de Tchekhov, c'est quand même pas une pièce sur la décadence, au sens où la cerisée, c'est vraiment la fin d'un monde. La Mouette, c'est au contraire, c'est quand même un milieu où ça marche, enfin le marché économique de l'art fonctionne. Bon, alors il y a effectivement la campagne très isolée, puis le propriétaire terrien qui finit, mais c'est pas exactement ce moment-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est aujourd'hui peut-être plus allégorique comme ça pour nous aujourd'hui, dans la mesure où bon, on n'a pas l'impression d'être sur le point à la veille de 1917. C'est une pièce assez à part dans l'œuvre de Tchekhov, dans la mesure où elle est complètement une oscillation entre son travail sur les nouvelles et son travail sur le théâtre, et où il se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour le théâtre effectivement, et où c'est une espèce de moment social où bon, les choses ne sont pas claires comme bon, la fin d'un monde ou le début d'un autre. C'est effectivement un autre niveau que ça joue. Enfin, c'est au niveau de bon, la réflexion sur les formes, et puis bon, sur l'histoire du théâtre comme histoire répétitive du fantasme aussi que la pièce joue. Je crois que cette pièce permet bien de se poser ce genre, un certain nombre des questions qui nous traversent aujourd'hui, oui, je crois.
C'était Mémorable, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale.